Bonjour à tout le monde. Je pensais là, vous savez, avec Facebook, il y a souvent des petits apps là où on peut faire je suis comme quel caractère dans Le Seigneur des Anneaux ou La Guerre des Étoiles, ou, tu vois, pour trouver le caractère qui me ressemble comme ça. Et je pense qu'il faudrait quelqu'un doit faire le même avec la Bible. Je suis comme qui? Quand on remplit une liste de choses et ça sort, je suis comme Josué, je suis comme Caleb, je suis comme David, je suis comme Pierre. Et ce matin, on va parler principalement de deux personnes, deux caractères dans la Bible. Deux caractères, deux personnes qui ont rencontré Jésus à un moment donné et qui se sont servis par Jésus. Jésus a servi d'eux comme exemple de disciples. Donc ce matin, c'est le préchauffage pour l'enseignement dans la semaine sur le disciple. Quand Pierre m'a demandé de qu'est-ce que j'allais ou si je voulais partager quelque chose pendant qu'il était parti, là, pendant qu'il est parti, j'ai dit oui, et ce qui vient, c'est ce que je vis, ce que j'apprends à ce moment. Et tout l'été, j'ai passé, je suis encore dedans, dans l'évangile de Marc. Intéressant. Que maintenant, on attend, il va avoir une étude sur Marc. Et c'est très riche. Pour moi, c'est vraiment un aperçu sur le disciple. Qu'est-ce que c'est le disciple? Et j'ai appris et j'apprends pas mal de choses à travers de ça, ce livre. Je voudrais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est vivante. Elle est efficace. Elle est courante aujourd'hui pour ma vie, pour nos vies. Ta parole nous met à le défi de qui suis-je et comment je me trouve devant toi, ma vie en tant que chrétien, disciple de toi. Seigneur, dirige-moi ce matin, que les paroles que je prononce soient tes paroles et que le Saint-Esprit puisse travailler. Saint-Esprit, travaille dans nos cœurs, agis, aide-nous à progresser, à avancer dans nos vies avec toi. Au nom de Seigneur Jésus. Amen. Donc, en Marc, l'évangile de Marc, en étudiant ça, j'ai appris que Marc, les scolaires pensent que Marc, il a pas nécessairement écrit une récit chronologique des événements. Bien sûr, il est le début de la vie de Jésus et la fin de la vie, mais entre-temps, il a pris les histoires que l'apôtre Pierre a partagées et des autres, et il les a rassemblées. Et ce n'est pas nécessairement chronologique, mais ils sont tous des récits qu'il a entendus et qu'il a mis sur papier pour nous. Et on voit à un certain moment, Jésus... Il y avait du monde qui suivait Jésus, et beaucoup de monde même. Il était très populaire et c'était la star du Juda, de la Palestine. Et un jour, lorsqu'il allait quitter le village où il se trouvait, au dernier moment, il y a un jeune homme qui vient en courant, pour lui demander une question, une très bonne question. Et c'est en Marc 10, que je lis. Donc, souvenez-vous, c'est au dernier moment, Jésus, il est en train de quitter. Comme Jésus, verset 17, Marc 10, 17 à 21. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il dit, « Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé l'aima, puis il lui dit, « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui s'assombrit à ses paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Ce jeune homme, si impatient, si envie de connaître la réponse à cette question, ou peut-être non. C'est pour moi la première chose qui m'a frappé, c'est qu'il vient en courant. C'est comme si il était bien occupé le week-end que Jésus a passé dans le village. Il était bien occupé avec plein de choses, ses affaires. Et là, Jésus, il part. J'avais cette question qui brûle en moi. Donc, il faut que j'aille lui demander. Donc, il court pour rencontrer Jésus. Et là, comme Marc dit, il se jette à genoux. Pour moi, c'est la drama queen de le moment où il se jette à, il pose cette grande question qu'il a. Il essaie de flatter Jésus. Il utilise des mots qui gênent. Bon maître, il essaie de flatter Jésus avec ce qu'il dit. Il ne savait même pas à qui il parlait vraiment. Et Jésus le reprend pour ça. Certainement, il pensait, à cause de sa richesse, il serait le bienvenu dans le ciel. Sa richesse pour lui était synonyme de sa vie juste. La richesse et la vie juste, ça allait ensemble pour lui. Dieu bénisse ceux qui sont bien, n'est-ce pas? Le texte nous dit que Jésus l'aimait. Donc, Jésus a vu en lui des bonnes choses, comme il voit en moi, comme il voit en vous aussi, des bonnes choses. Il aimait. Jésus connaissait son cœur. Il se trouvait quand même le défaut de cet homme. Et ce défaut, c'était la richesse. Donc, ce n'est pas une prédication sur la richesse et le défaut de la richesse et qu'il vaut mieux être pauvre que riche. Et tout ça parce que... C'est pas le but du texte, je pense. Jésus lui a dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Ce jeune homme, il est venu en cherchant la réponse à une question qui beaucoup de monde pose. Comment aller au ciel? Et comment avoir la vie éternelle, en fait? Et Jésus, la réponse qu'il donne, c'est pas la réponse que nous en donnons souvent si quelqu'un nous pose cette question. Lorsque quelqu'un nous pose cette question, l'interrupteur se met en marche et on commence notre présentation de l'Évangile quand quelqu'un nous pose cette question. Mais Jésus, la réponse de Jésus, bon, d'abord c'était qu'est-ce que les commandements disent, et après, finalement, il dit, oui, d'accord, vous avez fait tout ça, monsieur, mais ce n'est pas ce qui va vous faire entrer au ciel. C'est autre chose. C'est autre chose dans votre cœur. C'est pas garder tous les commandements. Il dit à cet homme, je pense, il dit, tu dois devenir mon disciple. C'est pas juste assure-toi de ton salut. Assure-toi que tu as repenti de tes péchés. Assure-toi que c'est tout en règle. Non, il dit, tu dois devenir mon disciple et tu dois me suivre. Pour Jésus, la clé d'entrée au ciel, ce n'était pas juste une question de repentance. Oui, la repentance est là. Oui, il faut vivre selon les commandements de Dieu. Mais il y a aussi la vie qui se met en marche avec ça. Et c'est la vie des disciples qui va de pair avec tout le reste. Et dans ce passage, je pense qu'on voit ça dans la réponse de Jésus. Que malgré le fait qu'il était juste dans tout ce qu'il faisait, il avait autre chose en lui et qu'il fallait que ça soit réglé aussi. Alors, le disciple, qu'est-ce que c'est le disciple? En Luc 14, on va lire quelques versets là. Luc 14, 25. Et même dans la colombe, le titre c'est « Comment suivre Jésus ?» Je ne vais pas lire toute la section, mais je vous souligner trois versets. 26, 27 et 33. Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère et sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Et verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. C'est presque la même conversation que Jésus est en train d'avoir avec quelqu'un d'autre ici. Mais dans le passage de Luc, Luc ajoute ces petites phrases, ces petites phrases qui gênent. Ne peut pas être mon disciple. Il faut être, en tant que disciple, il faut être dévoué. Il faut mourir de soi-même. Il faut abandonner. C'est l'abandon de tout. Il faut abandonner tout. Jésus est très catégorique ici. Et ça, une des sections, des phrases vraiment dures, lourdes de Jésus ici. Que si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas être mon disciple. Donc si je ne suis pas un disciple, je n'ai pas ma place au ciel. Et ça dérange quelque part avec notre pensée de la justification par la foi et toutes ces choses. Ça coince. On a du mal à mettre ça ensemble. Donc, c'est un combat qui est là pour comprendre ça. Mais ça ne change pas que c'est là. Et il faut l'évaluer, il faut comprendre comment ça entre dans toute notre façon de comprendre notre salut et comment le vivre. Jésus dit, il faut renoncer à la famille. Il faut accepter l'humiliation d'être un disciple de Jésus. Il faut tout abandonner pour le suivre. Pour Jésus, c'est l'engagement total ou rien de tout. Dans cette histoire du jeune homme riche, je peux imaginer les autres disciples lorsqu'ils voient ce jeune homme riche qui arrive peut-être avec des bonnes robes, des jolies robes et des bagues sur les doigts et c'est un homme avec des moyens qui arrive, qui vient pour poser une question à Jésus. Comment est-ce que je peux entrer dans le ciel? Et il pouvait avoir, les disciples pensent peut-être, j'imagine, pensent, ah, on peut avoir besoin de lui dans notre entourage. Parce que des fois, la peine sur la table, ça manque un petit peu. Donc, des fois, on a beaucoup et puis, autrefois, on a presque rien. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un avec des moyens qui est avec nous. Donc, ils sont encouragés de voir ce jeune homme qui arrive. Mais Jésus, en parlant avec lui, et Jésus qui connaissait les cœurs des hommes, et on lit ça souvent dans les évangiles, Jésus savait qu'il avait ce petit chose en lui, ce grand chose que ça manquait. Il savait que de lui suivre, il faut tout abandonner dans la vie. Et que quand ça tranchait dans la vie avec Jésus, là, à ce moment-là, quand ça tranchait, la richesse allait prendre une priorité dans la vie de ce jeune homme et que ça n'allait pas marcher. C'est pour ça que Jésus dit, il faut tout donner. Il y avait des autres, quand on lit la vie de Jésus, on voit qu'il y avait des personnes riches dans son entourage. Il y avait notamment des femmes assez qui avaient des moyens, qui étaient là avec eux, qui voyageaient avec eux, qui prenaient soin des besoins de tout le monde. Donc, ces femmes avaient quand même des moyens. Donc, ce n'était pas une question des moyens, ce n'était pas une question de richesse, c'était une question de la place de la richesse dans la vie de ce jeune homme. Donc, j'ai dit tout à l'heure, pour le disciple, c'est une question d'être dévoué, de mourir de soi-même et d'abandonner tout. On va regarder ça un peu plus. Et on voit du côté de l'abandon total, on voit dans la vie des disciples, et notamment Pierre. Pierre, quand il a entendu Jésus dans ce texte dire ce qu'il a dit, après il dit, eh oui, Jésus, nous, on a tout fait, tout ça. Il était content parce qu'il a compris que Il avait compris qu'eux, ils avaient tout abandonné. Et on voit ça dans le texte au début de l'évangile de Marc. On voit dans le premier chapitre, quand Jésus le trouve au bord de la mer, il les appelle de venir avec lui. Et ça dit dans le texte, « Aussitôt, ils laissèrent le filet et le suivent. » Aussitôt. En fait, c'est une phrase qui revient souvent dans l'évangile de Marc. En allant un peu plus loin, il vit Jacques, donc il parlait là de Pierre et André. Et là, ça dit, en allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était aussi dans une barque et réparer les filets. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec ceux de qui étaient employés. Et ils le suivirent. Donc, Pierre avait compris, ses disciples avaient compris, Matthieu, quand on lit l'histoire de Matthieu, quand Jésus a appelé Matthieu, quand on lit les autres rencontres que Jésus avait avec les autres disciples, les douze, que chaque fois Jésus les demande de lui suivre, c'est tout de suite qu'il vient. Et il suit Jésus. Là, il dit que Jacques et Jean, ils laissent leur père dans la barque avec les employés et eux, ils s'en aillent avec Jésus. Ils sont un bon exemple de la réaction nécessaire face à l'appel de Jésus. On peut voir le dévouement des disciples dans la réponse que Pierre a eue quand le jeune homme est venu. Ils nous ont tout quitté et nous t'avons suivi. Et après que le jeune homme est parti, le texte dit qu'il est parti, ça, dans le colombe, ça dit en verset 22, mais lui s'assombrit à ses paroles, il s'en alla tout triste. Donc le jeune homme part, tout triste, découragé, parce qu'il a compris. Il a compris qu'il ne pouvait pas. Jésus dit, oui, il a dit. Il a dit au jeune homme, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras le trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Et Jésus regarda autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits par ces paroles. Et Jésus reprit et leur dit, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est étrange ça, non? Cet exemple, chameau dans le trou d'aiguille, c'est quoi ça? Les disciples s'étonnaient encore davantage, ils se disaient les uns aux autres, alors qui peut être sauvé? Ça, c'est encore plus bizarre que qui peut être sauvé? Chameau dans le trou d'aiguille, qui peut être sauvé? Ça semble étrange. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Ces phrases, on a du mal à comprendre. Il y a plein d'explications pour ça, des différents, c'est un exemple de porte, petite porte dans le mur de Jérusalem, chameau ne peut pas entrer, différentes choses. Mais les disciples, ils avaient compris la métaphore que Jésus utilisait là. Ils avaient compris, alors qui peut être sauvé? Pour eux, encore, et dans la pensée des Juifs, la richesse, ce que j'ai dit tout à l'heure, la richesse était synonyme de sa vie juste, la vie juste. Dieu bénit ceux qui sont bien. Mais Pierre, en entendant tout ça, Pierre et les autres ont tout compris. Et ils étaient contents de dire, nous avons tout quitté. On n'est pas comme les riches qui ne veulent pas quitter leur bien. Ils disent, en autre mot, nous t'avons suivi, on a tout abandonné. Et nous, Et c'est quand Pierre a dit, oui, on l'a. Il était content. Donc, l'abandon de tout, c'est très important pour le disciple. On ne peut pas retenir les choses en tant que disciple. On doit tout abandonner. Un autre aspect d'être un disciple, et je crois que le jeune homme, il a compris quelque chose ici aussi de ça. En Marc 8, 34, Jésus dit à la foule qui est là avec lui, c'est encore une de ces phrases difficiles que Jésus a prononcées, mais il appela la foule avec ses disciples et leur dit, Marc 8, 34, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Qu'est-ce que c'est la croix dont Jésus parle? Il n'est pas encore allé à la croix de Calvaire, mais déjà il est en train d'inclure la croix dans la vie de disciple quand il enseigne. Le fait de suivre Jésus demande que nous identifions avec lui. L'humiliation qu'il était d'accord d'accepter. Souvent, quand les gens du monde et les gens des autres religions nous regardent, ils voient la faiblesse, l'impuissance, le manque d'importance des personnes qui suivent Jésus. Le fait que souvent, lorsque on apporte l'évangile dans les frontières de régions atteintes par le message de l'évangile, on est souvent en sous-nombre, donc on est peu nombreux. Au regard du monde, Jésus et ses disciples ne valaient pas et ne vaut pas aujourd'hui non plus grand-chose. Oui, ça change lorsque la vie que Jésus amène dans une communauté, par exemple, quand ça rentre et ça prend place et l'Église est là et ça a un impact, ça change. Les gens y voient un autre aspect. Mais au premier vue et dans la vue générale du monde, ils voient ce monde chrétien et ils ne voient pas d'un œil positif. Donc il faut identifier avec Jésus. C'est Jésus qui est allé à la croix. C'était un échec. C'était l'humiliation, la croix. C'était la punition. C'était la honte. Et Jésus, il nous demande aussi de porter cette croix. Lorsqu'il est parti, le jeune homme est parti, il y a une chose qu'il a compris. De suivre Jésus demande l'obéissance. Et s'il allait suivre, et encore je pense qu'il n'avait pas compris que Jésus était vraiment le Messie, mais s'il allait suivre ce maître enseignant, le rabbi, il fallait lui obéir. Il n'avait pas question. Et donc, une partie de ça faisait porter la croix. Il fallait porter la croix et il fallait l'obéir. En Jean 8, Jésus dit ces paroles. Et il est dit aux Juifs qui avaient cru en lui, Jean 8, 31, 32, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si vous demeurez dans ma parole. » Puis Jean, qui avait écrit cela, il est écrit plus tard dans sa vie, dans l'épître de Jean, le premier épître, 1 Jean 3, 22 et 24, il dit « Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Nous gardons ses commandements. » 23, ça dit, « Et voici quel est son commandement. C'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a ordonné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous à l'Esprit qui nous a donné. » Donc, gardons ses commandements. C'est l'obéissance. Et puis, en même livre, 1 Jean 5, verset 3, « En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ses commandements ne représentent pas un fardeau. » Mais l'idée là, c'est l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. L'obéissance. C'était 1 Jean 5, 3. Donc, on a déjà vu, le dévouement, le mort de soi, l'abandon de tout. On a vu aussi l'idée de porter la croix, d'accepter la croix. On a vu d'être appelé et de tout quitter et tout laisser derrière, de ne rien garder. Et puis, là, c'est l'obéissance, de garder les commandements. L'obéissance des disciples aux commandements et l'enseignement de Jésus ne faisait pas, c'était pas un objet de débat pour Jésus et les apôtres après. Ce n'était pas une question de prendre une partie et laisser une autre. C'était encore, c'était tout ou rien de l'enseignement de Jésus. D'être obéissant au commandement de Jésus, c'est un signe de notre appartenance à Jésus. C'est un signe de la présence aussi de Dieu dans nos vies, de suivre ses commandements. Et c'est un signe d'amour pour Dieu, d'obéir à ses commandements. C'est ce que Jean dit dans ses textes. Donc l'obéissance pour les disciples, l'obéissance est essentielle. On ne peut pas dire « Je suis Jésus », mais après, on n'est pas obéissant à ce qu'on trouve dans la Bible comme enseignement de comment vivre en tant que chrétien. Donc, accepter la croix et l'obéissance. Et puis, un troisième aspect, c'est la nouvelle nature qu'on reçoit et ce qu'on fait avec ça. En Éphésiens 4, 20 à 24, Éphésiens 4, 20 à 24, nous lisons le suivant. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. C'est Paul qui... L'apôtre Paul qui écrit aux disciples à Éphèse. Si de moi vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire, vous dépouillez, à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, Paul est en train de dire aux disciples de Jésus ici à Éphèse que s'ils avaient appris de suivre Jésus, il fallait plus rester dans la manière, les vieilles manières, les vieux habitudes qui n'étaient pas selon la volonté de Jésus. Il appelle la vieille nature. Il dit que c'est corrompu et c'est corrompu par les convoitises trompeuses. Mais il dit, il faut se séparer du vieil homme, ses manières de penser, d'agir, ses ambitions, ses envies. Mais il dit, le disciple de Jésus, rêvez d'un nouvel esprit qui vient de Dieu. Et c'est dans un autre passage que Paul a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est 2 Corinthiens 5, 17. Dieu est en train de nous dire là que quand on devient disciple de Dieu, de Jésus, la manière qu'on vit ne peut plus être la même du monde. Ça doit changer. Donc, accepter la croix, obéir au commandement, de se revêtir de cette nouvelle manière de vivre. Et ce n'est pas tout seul qu'on le fait, c'est par la présence de Dieu en nous, par le Saint-Esprit en nous, que c'est possible, parce que sans le Saint-Esprit, de se revêtir de ce nouvel, d'être une nouvelle créature, ce n'est pas possible. C'est juste la manipulation psychologique et ça ne marche pas trop bien. Mais avec l'Esprit de Dieu en nous, c'est possible. Donc, dans la vie de disciple, on est appelé d'être comme Jésus. On est appelé d'être comme le Maître. On est appelé d'être transformé, comme Paul dit dans un autre texte, et c'est un de mes textes préférés dans la Bible, en Romains 12, 1 à 2, en verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés. » Soyez transformés. Donc, être comme Christ, être transformé, d'être chrétien dans le temps de Bible était d'être un petit Christ, de suivre, d'être une reflet de Jésus. Et les gens voyaient ses disciples et ils les appelaient les chrétiens parce que c'était des petits Christ. Ils voyaient Jésus dans leur façon de vivre et de se comporter. Le comportement était sain et notre comportement doit être sain. On ne peut pas être conformé au désir du vieil homme. Pierre, il a dit en Pierre 14 et 15. Enfants obéissants, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il écrit, vous serez saints car moi, je suis saint. C'était 1 Pierre 1, 14 et 15. Notre comportement doit être changé. Le vieil homme, les désirs du vieil homme doivent être abandonnés et en une autre manière, on est comme Jésus. On est transformé. Et puis, Pierre nous dit aussi en 2 Pierre que, en tant que disciple, il faut grandir dans la foi. Il faut que ça bouge, il faut que ça avance. Il dit en chapitre 1, 2 Pierre 1, 5 à 7. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Donc, Pierre disait aux chrétiens, il faut que ça change, il faut que ça avance, il ne faut pas rester juste là dans votre vie de chrétien, dans la foi qu'on a maintenant, mais il faut que ça grandisse, il faut que ça avance. Donc, dans le jeune homme, on voit qu'il n'avait pas ça. On voit qu'il n'était pas prêt à obéir. Il savait aussi qu'il n'était pas prêt à obéir parce qu'il n'est pas resté, il est parti. Il n'était pas prêt à tout abandonner. Il n'était pas prêt à accepter la croix de Jésus. Il y avait une deuxième histoire que j'avais prise en lisant l'évangile de Marc, et c'est l'exemple de la veuve dans le temple, lorsque Jésus, c'est la dernière semaine de la vie de Jésus, il avait déjà chassé les vendeurs du temple. Et j'aime bien ce moment dans la vie de Jésus parce qu'en fait, on voit Jésus dans le milieu où il devait être. C'était le roi dans le temple. Il était assis là, en train d'enseigner. Et oui, il avait des gens, des mécontents de Jésus dans les ombres à côté, mais il avait le monde autour de lui. Et c'est Jésus qui enseignait. C'était vraiment le roi dans son milieu préféré à ce moment-là. Il avait des va-et-vient dans le temple. Les gens qui amenaient des enfants pour le temple. Les offrandes, ce n'était pas la dîme. Les offrandes, c'était quelque chose qu'on donnait de sa propre volonté. Ce n'était pas requis par Dieu. Les offrandes, c'était offrande. Pardon. Et donc, là, il est près de l'endroit où il fait ses dons, ses offrandes, et là, il y a cette dame qui arrive. Et on va lire, c'est Marc 12, 41 à 44. Marc 12, 41. Assis vis-à-vis du tronc, Jésus regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit deux petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus qu'aucune autre aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Et je sais que c'est un texte qui parle de l'attitude de comment on devait donner à Dieu. Mais je vois aussi ici un aspect, un aperçu sur le cœur d'un disciple aussi. On voit dans ce texte, et par son offrande, de ses dernières pièces, et comment est-ce qu'il dit là? Il dit, c'est le quart d'un sou, donc c'était vraiment pas, c'était pas beaucoup. On peut supposer là qu'elle avait personne qui s'occupait d'elle, parce qu'elle avait presque rien à donner. Elle était veuve, soit elle avait eu des pensées de ce que son mari avait laissé, soit son mari n'a pas beaucoup laissé derrière. Elle avait ici de venir avec ce petit sou, quelques sous. En fait, elle avait abandonné sa fierté d'aller en public et mettre ses petits sous à la vue de tout le monde, parce que c'était tout le monde voyait. Là. Mais elle avait envie de montrer sa reconnaissance à Dieu. Souvenez que les offrandes n'étaient pas obligatoires. Donc, elle faisait ça de sa propre volonté. Et Jésus connaissait aussi son cœur. Il a su trouver en elle un exemple de foi. Elle aurait pu être là pour chanter le bon Dieu. Ou elle aurait pu être là avec amertume. Mais Jésus a vu en elle un cœur qui était bon. Elle recherchait là à plaire à Dieu. Elle était un bon exemple d'un vrai disciple. C'était une vieille dame qui n'avait pas beaucoup de possibilités pour faire des choses, peut-être. Mais elle a fait ce qu'elle a pu et elle a offert ce qu'elle avait. Et c'est ce que Dieu demande à nous en tant que disciples. Il nous demande juste ce qu'on a. Il nous demande d'être obéissants à lui, d'accepter sa croix et de lui suivre. Tout ça, c'est une face d'être un disciple. Une deuxième face, et ce n'est pas un côté où je vais beaucoup parler, mais je vais juste toucher là, et peut-être ça va être aussi un peu le thème, je ne sais pas, de l'enseignement dans les mois qui viennent. C'est que pour le disciple, on voit dans le Nouveau Testament, il y a aussi l'aspect de former des autres. Il y a la vie de disciple, la pratique de suivre Jésus, mais il y a tout un autre côté que la Bible nous enseigne, que si on est un disciple de Jésus, ce n'est pas juste vivre ma vie avec Jésus, mais c'est aussi de la faire vivre par les autres. En 2 Timothée 2:2, et c'est très facile à se souvenir si vous voulez vous souvenir de ce passage, c'est 2 T 2:2. 2 Timothée 2:2. 2 T 2:2. 2 T, 2 fois 2. Je ne sais pas, vous trouvez la manière de se souvenir des choses, comme Pierre dit, trouvez les moyens de se souvenir des passages. 2 Timothée 2:2. C'est Paul qui dit à Timothée, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. J'aime bien ce passage parce que dans ce passage, je m'y trouve. Et vous vous trouviez aussi. Vous êtes là, soit vous êtes celui qui a entendu de moi dans la présence de beaucoup de témoins, confie-le. Donc, c'est vous, soit vous êtes un homme fidèle, qui reçoit l'enseignement de moi ici maintenant, que vous allez l'enseigner à d'autres, ou vous êtes les autres et vous allez recevoir. Et là, on voit vraiment une cercle qui continue, que celui qui reçoit donne, et celui qui a reçu ensuite il donne aux autres, qui ensuite donne aux autres, et ça continue. Ça, c'est aussi une autre face d'être un disciple de Jésus. Parce qu'on ne garde pas pour nous-mêmes. On ne peut pas le garder pour nous-mêmes. C'est déjà l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ et la nouvelle vie qui vient en lui, qui fait partie de la vie de disciple. Si on est passionné pour Dieu, si on a expérimenté cette transformation que j'ai parlé, de se revêtir d'une nouvelle vie qui n'est pas la même que la vieille nature d'auparavant, si on est passionné de ça et transformé de ça, on a envie de le partager aux autres. On a envie que les autres expérimentent ça aussi. On ne peut pas juste le garder pour moi-même. Ce n'est pas possible. Si je suis passionné pour Jésus, si je désire la gloire de Jésus plus que ma vie, que ma propre vie, je suis prêt à tout faire pour que les autres expérimentent aussi Dieu de même manière que moi. Ça, c'est aussi le disciple qui est saisi par cette passion, qui se laisse saisir par cette passion, qui a envie de le partager avec les autres. Parce que quand on a goûté à cette eau, on a besoin de le partager. Et là, je pense que je reviens à ce que je prêchais au début de l'été. Est-ce que vous avez soif? En tant que chrétien, oui, on se trouve tous dans ce texte-là de Timothée 2:2. Et c'est notre responsabilité aussi d'être obéissant à ça et de le faire connaître aux autres. Et lorsqu'on le fait connaître aux autres, de leur aider à leur tour à grandir, à se former, et d'être aussi des disciples, de connaître cette vie avec Jésus et de lui suivre pleinement. Alors là, j'ai juste une question d'abord. Êtes-vous un disciple de Jésus? Êtes-vous un disciple de Jésus? Si la réponse est oui à ma question, suite à ce que vous avez entendu ce matin, dans quel domaine devez-vous avancer, progresser ou ajuster quelque chose dans votre vie? Si la réponse est non à la question « Êtes-vous un disciple de Jésus ?» Est-ce que vous êtes prêt à s'engager? Souvenez-vous, c'est le dévouement, c'est la mort de soi et c'est l'abandon de tout. Ça, c'est d'être un disciple. C'est ce que Jésus a demandé à ce jeune homme pour avoir la vie éternelle. Jésus dit, et ça semble dur et lourd, mais Jésus a dit en Matthieu 11, il a dit, acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. Matthieu 11, 29 et 30. En effet, mes ils sont bons et mon fardeau est léger. Mes exigences, voilà, ça casse tout. Ils sont bons et mon fardeau est léger. Oui, il faut le dévouement, il faut mourir de soi, il faut tout abandonner. Mais Jésus dit, mon fardeau est léger. Une autre traduction, ça dit, oui, mon joug, c'est plus facile à prononcer, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est léger. Jésus veut le repos de votre âme. Si vous avez dit non, est-ce que je suis un disciple? Il veut le repos de votre âme. C'est ce qui se passe lorsque vous décidez de suivre Jésus. Jésus, merci parce que tu es venu. Tu es venu prendre la forme d'un homme pour que nous puissions connaître qui est Dieu. On n'est pas limité à juste ce qu'on observe dans la nature autour de nous. C'est déjà bien, c'est déjà merveilleux. Mais ce n'est pas complet. Mais en toi, on voit vraiment le reflet exact de Dieu infini. Merci d'être venu. Et merci qu'on peut te suivre. Merci qu'aujourd'hui c'est possible. Et je prie, Seigneur, que cette semaine tu nous aides de vivre cette vie de disciple qui à la fois est difficile, mais en même temps tu dis, mon joug est facile. C'est léger. Seigneur, aide-moi de vivre pour toi. Aide-moi de porter ce fardeau, de te glorifier, de t'adorer. Aide-nous chacun de vivre d'une telle manière cette semaine. Merci Jésus que tu vis et tu vis en nous. En ton nom. Amen.